Voyez-vous le doctorat plutôt comme une formation ou pour comme une première expérience professionnelle? Parce que tout ce que vous avez expliqué, normalement, il faut le faire déjà pour le doctorat. Il faut rencontrer des gens, il faut développer un projet personnel, il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire. Et finalement, si on a tous fait déjà pour le doctorat, oui, c'est clair, il faut le faire encore une fois pour le deuxième travail, si on le voit comme ça. Mais c'est aussi une idée, si on voit le doctorat comme formation, oui, il faut évidemment chercher pour la première fois un travail. Et pour ça, il faut réfléchir un peu plus sur son propre intérêt pour un travail pour l'avenir.
Alors, ça me rassure ce que vous dites, parce que si vous dites ça, c'est que vous avez déjà un projet bien déterminé, que vous avez fait ce travail en amont. Sauf que parfois, même souvent, quand je rencontre les docteurs, enfin pas les docteurs, les doctorants, même les docteurs, certains docteurs, mais certains doctorants en première année, il n'y a pas forcément de projet. C'est j'ai suivi les trains qui passent, je les ai pris, je ne me suis pas forcément posé de questions, j'ai été aussi brillant, donc je n'ai pas eu à réfléchir. Alors peut-être que vous ne venez pas d'une formation française au départ, mais sans vouloir critiquer l'éducation nationale, plus vous êtes bon, ce que je disais hier, plus vous êtes bon, moins on vous demande de réfléchir à votre projet. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler de projet, notamment en troisième, quand vous devez faire une filière professionnelle parce que vous n'êtes pas assez bon dans les matières générales. Si vous êtes bon, on ne vous pose surtout pas cette question horrible, qui pour moi n'est pas une question horrible, au contraire, on devrait se la poser dès le début, et on se la pose que après de longues années d'études. Et notamment, on fait forcément une filière scientifique, parce que la filière littéraire, surtout pas. Si vous êtes très bon en maths, il faut absolument privilégier les mathématiques, parce que le français, c'est sympathique. Maintenant, c'est assimilé d'ailleurs avec la géographie, c'est ensemble, hein, alors qu'avant, c'était bien séparé, donc ça m'inquiète aussi. Bon, bref, pour ceux qui font de la géographie, ça doit aussi les inquiéter, je pense. Mais voilà, on a la filière généraliste, on ne se pose pas de questions, on va jusqu'au bout. Donc du coup, on peut être amené, sincèrement, à voir des gens qui ne se sont jamais réellement posé de questions sur ce qu'ils ont envie de faire. Et puis parfois, ils ont juste réfléchi, tiens, pourquoi pas une thèse, puisque j'ai un financement qui m'arrive. Alors ok, je vais répondre à une candidature, ok, je vais me vendre, mais je vais me vendre par rapport à un besoin. Je ne vais pas forcément en amont dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher. C'est en gros l'image, or c'est une image qui est peut-être, enfin, je ne sais pas, elle vous ira peut-être pas, mais c'est ce qui me vient, c'est ce que je fais quand je fais mes courses. Je ne réfléchis pas du tout à ce que j'ai envie, je vais dans le supermarché et puis je prends ce qui me vient comme ça. D'ailleurs, généralement, quand je fais ça, je dépense des fortunes. Par contre, vous avez ceux qui savent exactement, alors ça, ça m'épate, ils savent exactement ce qu'ils vont faire à manger ce soir, ils ont listé ce qu'il leur fallait comme légumes, comme ingrédients, et ils vont dans le supermarché, ils savent exactement dans quel rayon ils doivent aller pour avoir uniquement ce qu'ils ont prévu. Okay, ça, c'est élaborer un projet, c'est aller chercher l'information pour faire un choix. Mais ceux qui ont fait l'autre choix, comme moi, quand je fais mes courses, mais juste quand je fais mes courses, c'est je prends au gré du vent, j'attrape ce qui va. Alors parfois, ça, c'est génial. Hein. Parfois, on a des gens qui sont très épanouis dans ce qu'ils font. C'est un coup de bol. Généralement, moi, je dis, la chance ne sourit qu'à l'esprit préparé. Généralement, il y a quand même une réflexion. Mais si réellement, vous avez fait ce travail de réfléchir à, tiens, pourquoi pas une thèse? Tiens, je vais aller discuter avec des doctorants. Tiens, je vais aller rencontrer des chercheurs. Tiens, je vais aller voir comment ça se passe concrètement dans un labo. Là, je me dis, vous avez, voilà, vous faites signe de la tête, donc vous l'avez fait. Donc, bien évidemment, pour moi, la thèse est une expérience professionnelle. La thèse est une expérience professionnelle où on continue à apprendre, où par contre, on n'a pas les mêmes avantages qu'une expérience professionnelle basique, parce qu'en fait, vis-à-vis de ses encadrants, on n'est pas toujours considéré comme un professionnel à part entière. Donc là-dessus, ça m'ennuie un peu. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, je suis en thèse, j'ai signé un contrat, je le mérite, je me suis battue pour, donc j'ai des devoirs, effectivement, par rapport à cet engagement, mais l'école doctorale, mais le labo dans lequel je suis, a aussi des devoirs vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je pense que, et c'est ce que je travaille avec certains, je pense qu'il faut ce que j'appelle une charte d'engagement réciproque. Vous avez le droit aussi, parfois, d'estimer qu'il y a des dépassements, il y a un peu d'abus. Vous avez le droit d'échanger avec toute humilité, hein, attention, hein, et de négocier certaines choses avec votre labo sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, parce qu'il y a un moment, ce n'est plus possible. Je ne donne pas d'exemple, je n'ai pas envie, mais il y a vraiment des choses qui sont pour moi abusées. Voilà. Après, c'est moi, en tant que professionnelle, dans mon environnement. Vous faites souvent beaucoup de sacrifices pendant cette thèse, que vous ferez peut-être moins après. Après, c'est votre choix. Si ce n'est pas subi, tout va bien. Hein, ça, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est une expérience professionnelle, et une difficile expérience professionnelle, parce qu'il n'y a pas forcément la reconnaissance derrière, vis-à-vis des pairs, vis-à-vis de notre environnement familial qui estime parfois que vous êtes encore en formation. Hein, mais je suis persuadée que pour moi, c'est une identité professionnelle et une expérience professionnelle. Par contre, tout au long de sa vie, il faut continuer à explorer. Et donc, pendant la thèse, continuer ce que vous avez fait, vous, j'espère, apparemment avant, c'est tiens, comment j'ai envie d'évoluer à l'issue de cette thèse. Et puis, les idées que j'avais au départ, peut-être que sur les 3 années, elles vont changer. On peut, heureusement, sortir d'un train et en prendre un autre. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et en plus, c'est l'idéal. Parce que les recruteurs et les mondes professionnels adorent les gens qui sont en poste. Alors si ça fait 1 an que vous ramez et que vous n'avez toujours pas trouvé, ça les stresse. Si, eh bien, écoutez, je suis en poste là, voilà ce qui se passe, j'en ai marre de tel truc, donc je viens vous voir parce que j'ai envie de développer telle compétence que je ne développe plus aujourd'hui dans cet endroit-là. Oh, mais ils adorent, ils sont ravis, parce qu'ils se disent au moins, lui, il sait pourquoi il vient me voir. Vous voyez ? Mais bon, si vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de souci, j'irai voir ailleurs. C'est ça l'idée un peu. Non, mais c'est un peu l'idée, selon moi. Donc oui, je fais partie de ceux qui pensent que c'est complètement une expérience professionnelle. Donc forcément à mettre sur un CV dans la partie expérience professionnelle.
Oui, donc je reviens à ça. Donc est-ce que sur le CV, concrètement, on va mettre la thèse seulement dans la partie expérience professionnelle ou on peut mettre aussi dans la partie formation aussi, les deux en même temps ?
Les deux. Dans la formation, on a le parcours universitaire avec... avec le nom du labo et le sujet de votre thèse, et dans la partie expérience professionnelle, le détail de vos compétences développées au sein de ce labo. Les deux. C'est pour ça que je dis que c'est une expérience professionnelle particulière. Parce que pour certains considèrent que c'est une formation. Donc du coup, la reconnaissance professionnelle qu'on a quand on est en poste est plus difficile, elle est moins imperceptible. Voilà. Mais pour moi, c'est complètement une expérience professionnelle. Enfin, je fais partie des recruteurs et du secteur des services de ressources humaines à dire que c'est complètement une expérience professionnelle. Et je pense que les cabinets de recrutement spécialisés dans l'après-thèse considèrent complètement que c'est une expérience professionnelle. Et c'est ce que je m'évertue à dire aussi à l'Espace Cadre. Et c'est ce que le contact aussi s'évertue à dire.
Je suis d'accord que de dire que c'est une expérience professionnelle, mais je pense que ça dépend quand même des milieux. Parce que par exemple, dans la recherche académique, c'est quand même vraiment vu comme une formation. Peut-être de mettre dans les deux cases, ok, mais je pense que si on met pas dans la formation, ça sera aussi mal vu d'un côté. Parce qu'on est vraiment vu dans la recherche académique comme quelqu'un en formation. Donc je pense que c'est, bon, je suis d'accord avec vous que c'est pas forcément très juste. Et c'est, là encore, on manque peut-être de reconnaissance vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'il faut faire attention en fonction de qui, à qui on s'adresse, bien entendu aussi, quoi.
Alors je suis bien d'accord parce que si je discute avec des directeurs de labo, eux, c'est leurs étudiants. Hein. Vous êtes leurs étudiants. Hein. J'entends tout à fait ce que vous dites. Donc, bien évidemment, de toute façon, dès que vous êtes avec des professionnels, vous êtes dans un travail aussi de séduction. Et donc, forcément, vous vous adaptez à la personne que vous avez en face. Hein. Donc, il faut savoir trouver les mots et avoir ce tact et cette diplomatie pour faire en sorte qu'on soit en phase. Sinon, on est un mur contre un mur et ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, vous êtes suffisamment mûr, je pense, pour défendre aussi vos opinions. Avec tact et diplomatie, encore une fois. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est du coup, on le met dans les deux parties. Donc, du coup, on vexe personne et on répond aux deux besoins, aux deux profils, aux deux attentes. Et on peut se dire quelque chose, c'est que quand on est en thèse, il y a des jours où on va être plus dans de l'apprentissage, où on va apprendre des choses en théorie. Mais à partir du moment où on met en pratique quelque chose, on utilise ses mains pour faire quelque chose et on est dans ce que j'appelle une compétence, c'est quoi ? Un savoir-faire en action, dès qu'on met en action quelque chose, on est dans de la compétence. Donc j'ai envie de vous dire, même quand vous êtes en master 1 et 2 et que vous avez des travaux pratiques, pour moi on est dans de la compétence. Donc quand je travaille, parce que j'interviens aussi sur les masters chimie des matériaux, notamment sur l'UM2, je leur dis, sur vos CV, parce que je travaille sur l'enquête métier dès le master, hein, ça y est, enfin l'université est à l'écoute de ça, je suis ravie, je leur dis, voilà, quand vous faites votre CV, dans les compétences spécifiques tout en haut, parlez de vos TP. Quand vous êtes en TP, vous faites quoi ? Et là, on est sur des compétences. Donc, quelque part, pendant le parcours universitaire, en dehors des stages, évidemment, il y a aussi, en plus des stages, de la pratique et donc de la compétence derrière les TP. Quand vous êtes en thèse, c'est simple. Il y a des jours où vous allez plus sur de la connaissance et des jours où vous êtes beaucoup plus sur la pratique. Mais malgré tout, l'arrivée en thèse, c'est une période où vous êtes beaucoup dans la manip et donc quand même beaucoup plus dans le développement des compétences. C'est pour ça que je le vois comme vraiment une première expérience réelle. Mais ça reste, je suis d'accord, ça reste des deux côtés. Mais je pense que vous pouvez le défendre, ça. Moi, quand je discute avec des responsables de labo, je leur dis, attendez, vos étudiants, comme vous dites, quand ils sont à la paillasse et que vous leur laissez le boulot et que vous revenez 4 jours après pour vérifier s'ils ont bien fait, vous leur confiez bien des responsabilités, vous déléguez bien, vous leur faites confiance. Si vous leur faites confiance, vous qui êtes expert en plus, c'est que vous estimez qu'ils sont vraiment experts. Parce que j'ai envie de vous dire, faire confiance, c'est facile, ça dépend du niveau qu'on attend. Hein. Moi, si je fais confiance à ma fille pour peindre un mur, je peux lui faire confiance, mais je pense que le mur ne sera pas dans le même état, bon, ma fille a 4 ans et demi, que si j'appelle un peintre spécialisé en œuvre d'art. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc si eux vous font confiance, dites-vous bien un truc, hein. C'est que vous êtes forcément déjà compétent, je crois. Hein. Surtout que certains, je suis consciente quand même, que parfois vous utilisez des outils et vous faites des manips qui peuvent coûter très cher si vous vous plantez, je crois. Donc, si vous êtes en capacité d'utiliser un appareillage, où vous savez que vous pouvez foutre en l'air tout un travail, parfois de nombreux mois, si vous faites une erreur, et qu'il n'y a personne derrière pour vérifier ou surveiller, c'est que vous êtes réellement dans de la maîtrise minimum. C'est un avis, hein. Et donc, pour moi, de la vraie compétence. Mais je pense que vous pouvez avoir ce discours-là auprès des encadrants. On peut ne pas être d'accord, on peut être très à l'écoute de ce que lui pense, mais vous pouvez aussi très bien dire, bah, écoutez, moi, avec toute l'humilité, hein, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, que vous avez beaucoup à m'apprendre, que je suis là pour vos attentes aussi par rapport à la thèse, hein, mais moi aussi, j'ai à apprendre et j'ai aussi à proposer.
Je trouve que le double statut salarié et étudiant, il est complexe parce que justement, il n'est pas facile à définir, mais il correspond parfaitement à la thèse. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est peut-être personnel, mais il correspond complètement à la thèse puisqu'on est encore en formation pour moi. Et en même temps, on a aussi à prendre des responsabilités et à mener sa thèse, en fait. Donc, c'est aussi, d'un point de vue, une expérience professionnelle.
On est encore en formation, en association du développement de compétences, et on est encore une formation, mais pour moi, moins généraliste. On devient un expert quand même de la formation. C'est-à-dire qu'on devient un spécialiste en termes de connaissances sur un sujet pointu. Et attention à ça, c'est pas parce que vous répondez à une demande de thèse, parfois qui ne colle pas forcément à votre profil de départ, parce que certains ne choisissent pas forcément exactement le sujet. D'ailleurs, généralement, on répond à des sujets qui sont existants. On ne crée pas forcément son sujet, sinon on part sur d'autres attentes. Donc attention à ça aussi. Peut-être que cette spécificité-là, vous n'avez peut-être pas envie à l'issue de votre thèse de la poursuivre. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute à l'issue de sa thèse sur « Tiens, aujourd'hui, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à développer pour ne pas continuer dans ce train-là qui, quelque part, s'éloigne de moi, quoi. » Vous, à la base, si je me souviens bien, vous êtes conseiller en économie sociale et familiale et vous faites une thèse, mais personnellement, elle n'est pas financée, je crois. C'est ça, hein? Ça, c'est encore à part, effectivement. Donc, du coup, le fait qu'elle ne soit pas financée, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus libre aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de liberté en termes de gestion du temps et en termes d'investissement? C'est les fameux avantages qu'on pourrait dire. Ça peut être un avantage. Mais effectivement, c'est encore à part. C'est encore à part. Et puis vous, c'est très différent parce qu'on en a parlé un petit peu. Enfin, on en reparlera quand on se verra en entretien. Mais vous, c'est... j'ai travaillé 15 ans. Je crois que c'est 15 ans. C'est une bonne mémoire. Hein. 15 ans en tant que conseiller en économie. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur cette partie du Maroc, du sud du Maroc, qui m'interpelle, qui me touche vraiment. Dans mes valeurs relatives au travail, je n'ai pas parlé des valeurs, mais vous, c'était... je n'ai pas parlé de vous trop quand même. La bienveillance sociale, l'envie d'être utile pour les autres. Tiens, je vais peut-être utiliser cette thèse comme un moyen pour faire connaître ce coin du Maroc. Vous voyez? Donc, c'est forcément issu d'une réflexion personnelle, vous. Ça, vous ne subissez pas du tout. Alors, vous allez peut-être subir le besoin des partenaires, le besoin de convaincre certains financeurs, le besoin de comment faire de la pub, comment vous faire connaître cette région, des articles qui sont importantes pour vous. Mais à côté de ça, vous avez toute cette liberté aussi. Et vous, forcément, il y a tout un projet qui est derrière. Non, vous ne voyez pas comme ça? Alors par contre, ce qu'il faut, c'est continuer à être à l'écoute de votre charte d'engagement personnel, vous. Parce que comme il n'y a pas de charte d'engagement réciproque avec le collège doctoral, je dirais, vous, c'est tiens, n'oublie pas pourquoi tu fais cette thèse. Peut-être qu'il faut l'écrire tout ça, parce qu'à force, on finit par oublier. Quand je fais des bilans de compétences, je dis toujours la première chose à la personne, avant de démarrer quoi que ce soit, vous allez mettre l'analyse de vos besoins et vos attentes suite à ce bilan. qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous faites ce bilan. Je vous assure, hein, entre le départ, l'analyse du besoin au départ, et au final, ce qui arrive, ça me fait vraiment sourire à chaque fois, parce qu'on fait des bonds de mètre en mètre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut au départ et puis ce qui va se passer à l'issue, quoi. Si ça tombe, vous allez, suite à cette thèse, continuer dans ce domaine et abandonner complètement votre métier de conseiller en économie sociale et familiale. Parce qu'il va y avoir un déclic, parce que vous allez rencontrer des partenaires à un moment qui vont être sensibles comme vous à une cause et vous allez avoir envie de complètement vous y investir. Je ne sais pas, on n'a pas de réponse là aujourd'hui, mais peut-être. C'est le danger quelque part, quand on saute d'un train et qu'on en prend un autre, bah c'est sympa aussi. Hein. C'est qu'on appartient à personne, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Je ne sais pas si les présidents d'aujourd'hui savaient qu'ils allaient être présidents. Enfin, on ne sait pas ce qu'on deviendra. C'est ça qui est génial quelque part. Tout dépend de nous, bon, et puis évidemment des trains qui passent et des bonnes étoiles, mais je pense que tout se mérite. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Et puis après, ça dépend des ambitions. Je reviens sur les valeurs. Hein. Ma valeur relative au travail, c'est quoi ? On en a parlé hier. Est-ce que c'est être indépendant absolument ? Est-ce que c'est être bienveillant et répondre à une cause ? Est-ce que c'est pouvoir diriger, avoir un rôle de commandement, pouvoir avoir du pouvoir sur les autres ? Il y en a pour qui c'est un rêve et ça se respecte, hein. Je pense que ceux qui sont en politique rêvent de ce pouvoir-là. Sinon, ils ne feraient pas de politique. Hein. Il faut arrêter de croire. Hein. Comment ?
De toute façon, on a besoin de gens comme ça.
Tout à fait, merci. Oui, on a besoin de gens comme ça. Donc, je les respecte. Après, c'est fait bien ou pas bien. Mais le commandement, vous avez un souci avec ça souvent. Le commandement, ça peut être du management participatif. Ça peut être du commandement avec énormément de respect de l'autre. Mais ça veut être, c'est moi qui tire les cordes. C'est moi qui décide, mais ça ne veut pas dire que j'écoute pas les gens, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de les faire partager au projet, mais j'ai envie à un moment qu'on me reconnaisse et j'ai envie de briller tout seul. Voilà, j'assume, mais je ne suis pas forcément quelqu'un de tortionnaire. Hein. Et souvent, quand on a envie d'être prof de faculté, d'être reconnu, d'être publié, je pense qu'il y a aussi cette envie-là. Voilà, ça arrive. C'est rare que l'humilité au sens « je veux surtout pas qu'on me voie, je veux rester sous la table », hein, c'est rare, ça arrive. Mais...
C'est pas pire que d'avoir un directeur qui ne sait pas prendre des décisions, par exemple. C'est pour ça que je lui dis il faut avoir des. On a besoin de personnes comme ça aussi. Parce que parfois, c'est insupportable. Et juste par rapport à la petite réflexion qu'on faisait tout à l'heure, par rapport au travail, à la thèse, est-ce que c'est une formation, est-ce qu'on est toujours en formation ou c'est une expérience professionnelle? Aussi, moi, avant de faire ma thèse, j'ai travaillé un an dans une entreprise. Et donc, j'étais comme chef de produit. Donc, c'était plus dans le commercial. Et malgré ça, j'étais toujours amené à me former continuellement. Et je vois pas trop la différence entre ce que je fais maintenant parce que je dois me former. Et il y a la pratique aussi sur le terrain. Et quand j'étais en entreprise aussi, il y avait beaucoup de pratiques sur le terrain, mais je devais me former continuellement. Donc, en gros, il y avait deux activités majeures que je devais faire tout le temps. Et elles sont restées. C'est les mêmes activités que je fais maintenant. Donc, trancher comme ça directement, dire en thèse, je suis en formation. Et quand je suis dans une entreprise, je travaille, c'est professionnel, c'est pas vrai. C'est une vision déformée des choses.
Il a tout à fait raison que dans tous les domaines, même si vous avez 50 ans, si vous commencez un nouveau travail, pendant les premières 3 années, vous êtes en formation aussi. Mais c'est quand même reconnu comme frais expérience de travail.
Juste une petite remarque, on peut rebondir aussi avec le fait que quand on est en formation en tant que salarié, on est salarié de la formation continue. C'est joliment dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on reste salarié quand même. Donc c'est bien une preuve qu'on peut être en formation et être aussi en expérience professionnelle. C'est vrai que... Alors c'est plus facile pour ceux qui ont du parcours professionnel, parce que si vous avez effectivement été en formation en parallèle, vous avez continué à vous former, pour vous c'est une évidence que la thèse c'est la suite. Mais quand on a été que en parcours universitaire et qu'on poursuit avec la thèse, les environnements de travail sont quand même particuliers, au niveau des équipes je parle, et au niveau des dirigeants, et parfois en fonction de ces responsables, on ne vous renvoie pas forcément les mêmes choses. Alors ce qui est très amusant, c'est une hypothèse, une remarque, c'est que ceux qui ont été professionnels avant, comme par hasard, les directions au niveau des labos sont différentes aussi avec vous. Parce qu'ils savent aussi que vous avez développé des compétences avant et que vous êtes aussi des professionnels. Ça joue aussi, ça peut s'expliquer aussi. Hein. Je pense que c'est une question aussi de, de voir avec qui on est et jusqu'où on peut aller, comment on doit se positionner avec la personne qu'on encadre.
Moi, je dis à la réunion de labo, mais non, je le crois pas parce que j'ai des bons arguments contre ça. Même si vous êtes le responsable, vous avez plus d'expérience, je respecte, mais quand même, j'ai un autre avis, donc je le dis. Et si on fait ça, clairement, dès le début, forcément, on est vu différemment que quelqu'un qui reste là, qui n'ose pas dire quelque chose contre le patron parce que c'est le patron. C'est aussi un peu la question de la culture d'être un peu dans un système hiérarchique. Et dans les pays différents, par exemple, si vous faites une thèse aux États-Unis, si vous faites une thèse en Angleterre, en Allemagne, vous avez tout à fait le droit, comme thésard, de dire « Ah non, c'est pas du tout frais ce que vous dites là. » Moi, j'ai fait cette expérience, j'ai tel ou tel résultat, et c'est clair que c'est une autre chose que votre hypothèse. Donc votre hypothèse, c'est faux. Ici, c'est un peu difficile, il faut le faire un peu comme ça. Mais quand même, il faut dire votre opinion parce que vous êtes salarié, vous êtes quelqu'un qui fait un bon travail. C'est mon avis. Mais...
Que ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà, donc en plus, vous avez un salaire. Donc à partir du moment, quelque part, dans la définition même, dans le droit du travail, on va s'arrêter même là, on pourrait dire. À partir du moment où vous avez un salaire, il y a une contribution-rétribution. Vous êtes en emploi, vous êtes en poste. Même si ce n'est pas vu de la même manière. Je sais. Mais en attendant, on est bien d'accord que la position que vous allez avoir, la manière dont vous allez vous comporter au niveau de votre attitude, donc on en revient au savoir-être, il faut que vous ayez la position de quelqu'un qui est professionnel aussi. Parce que ça va jouer sur ce que vous allez renvoyer. Si vous arrivez avec le petit cartable, le bloc-notes, j'exagère, hein, et l'image vraiment de l'étudiant qui arrive et qui va écouter le grand chef hindou qui va nous dire comment penser, comment faire, forcément, ça joue énormément sur ce qu'on va projeter de vous. Les enfants, en fonction de comment le prof des écoles arrive dans sa classe premier jour, et bah, c'est là que ça va jouer sur les limites. Est-ce que je vais pouvoir parler quand la maîtresse parle ou est-ce que je vais me faire tout de suite engueuler, donc je vais me taire? Ils testent la température. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette époque. Quand vous avez été animateur, formateur, enfin tout ça, on teste. Et on a une attitude en fonction de ce qu'on nous laisse comme limite aussi, de ce qu'on renvoie. Donc est-ce que, quand je suis au labo, j'ai une identité professionnelle et est-ce que je me comporte comme un vrai professionnel aussi? Avec tout le tact qu'il faut, j'entends bien, parce que... Il faut, elle vous l'a dit, hein, attention, hein, il faut y faire attention, puisque culturellement aussi, ça ne se passe pas de la même manière aux États-Unis. Je pense que ça se passe aussi différemment en fonction aussi des labos. Je crois que c'est très variable, hein. Il faut quand même qu'on se le dise.
Ça dépend beaucoup des labos et des équipes, mais hein, sincèrement, moi je trouve que la recherche est quand même très très hiérarchique, et qu'avant d'avoir les droits qu'on a en tant que doctorant, il faut vraiment s'affirmer et vraiment y aller, quoi. Et c'est ça que je regrette, c'est-à-dire qu'on devrait être considéré comme un salarié ou un doctorat en formation, je sais pas trop le statut maintenant, mais juste comme une personne qui travaille et qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de participer à des réunions, etc. Et c'est loin d'être le cas, vraiment. Franchement, c'est vraiment loin. Et du coup, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, faut se battre, quoi.
Je suis pas complètement d'accord parce que on est trois thésards, on a le même directeur de thèse, et je vois un comportement complètement différent avec chacun de nous, de notre directeur de thèse. Et en fait, c'est ta manière d'être, si je puis dire, qui définit la manière dont votre directeur de thèse va se comporter avec vous. Parce que quand il parle avec un thésard, il lui dit « il faut faire ça, il faut que tu fasses ça ». Et quand il parle avec un autre, il lui dit « qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Et moi, quand je dis ça, dans un premier temps, j'ai halluciné. Après, j'ai compris que, en fait, c'est plus la première personne qui envoyait l'image de quelqu'un qui attendait toujours des autres à des ordres.
Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup d'arts qui attendent qu'on les implique. Non, enfin, faut s'impliquer. Enfin, j'en connais beaucoup qui sont oui, mais non, mais on m'a dit de faire ça. Alors, je suis revenue la semaine d'après, j'ai dit que j'avais fait ça. Ensuite, on m'a redit de faire ça pour la semaine d'après. Enfin, t'es technicien ou t'es thésard, quoi. Au bout d'un moment, faut aussi s'affirmer. Non mais. Alors, il y a des extrêmes. Moi, j'ai galéré pour me faire impliquer. En plus, je suis en industrie, donc voilà. Mais sauf que moi, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit non, je suis pas. J'ai choisi mon sujet de thèse, j'ai choisi mon entreprise, j'ai choisi mon truc. C'est pas pour me faire mettre sur le carreau. Sinon, j'arrête. Donc, mais au bout d'un moment, faut crier. Je me suis pris des prises de tête et tout ça, mais je suis d'accord, mais au bout d'un moment ça montre aussi de l'implication et tout ça. Après, on tombe toujours sur des gens très intelligents qui mettent des barrières, mais...
Là, c'est un peu bizarre, parce que en même temps, tu dis qu'il faut se battre, mais c'est justement le prélude, où déjà, bon, c'est que tu mets le pied dans la vie professionnelle, quand je veux dire, hein. Dans une entreprise ou ailleurs, ta place, il faudra la mériter. Hein. Quand je suis sur un tapis de combat, ma place, je la veux. Hein. C'est simple. Il faudra jouer des coudes. Mais c'est vrai que dans la recherche aussi, bon, quelquefois, non, tu peux avoir des droits qui sont, comment dire, acquis, mais c'est encore autre chose que de se les voir reconnaître. C'est inscrit dans le code du travail, mais maintenant qu'on les respecte, c'est encore autre chose. Il faut que tu les réclames, il faut que tu les exiges. Non, il faut que tu les fasses exister. Je veux te dire, c'est un jeu de miroir. Il y a ce que toi, tu projettes, et donc la façon dont l'autre aussi va réagir. Ce ne sera pas donné. Je veux dire, si demain, tu réclames pas ton salaire minimum, eh ben, je te dis, je te propose les 2/3, et tu vas prendre les 2/3. Après, c'est tout. Mais si tu les réclames pas, ben, personne va se bousculer pour toi, quoi. Il y a de ça. De l'autre côté, je dois reconnaître aussi, bon, c'est vrai, ton analyse, dans certains domaines, non, on n'a pas des directeurs de thèse, hein. On a des mandarins. Bon, voilà. Le gars, il en jette, j'ai un prof qui me dit, ben, quand vous aurez votre doctorat, vous pourrez l'exprimer, votre point de vue. Mais j'ai écouté, j'ai fait, bon, je crois que nous, on fera pas de thèse ensemble. C'est simple. Voilà, ça s'est arrêté là. Parce que moi, je fais de la recherche en droit, alors c'est pire. Pour ceux qui ont des métiers plus ou moins techniques, vous les démontrez par l'objet. Mais quand il s'agit d'avoir des opinions, non, c'est monsieur un tel qui a dit, puis après, tu passes à servir, hein, ramasse les miettes, casse-toi. Je mange pas comme ça. J'ai eu une expérience professionnelle avant, maintenant je suis un peu plus têtu que d'autres. Mais c'est vrai, si on a fait directement des études universitaires, qu'on arrive là-dedans, on a toujours envie d'être le petit écolier. Hein. Oh, c'est le mur. Mais c'est vrai que si vous commencez comme ça, votre vie professionnelle, vous allez la faire comme ça. Aussi. Hein? oui, ah ben, vous ferez partie de ceux qui vont finir un peu dans une analyse psychologique ou à se redresser par le sport ou autre chose pour se refaire un peu le cœur, quoi.
Bon, c'est vrai qu'il faut pas. Enfin, c'est parce que je me refuse au déterminisme, mais je me dis qu'on peut toujours se rattraper un moment. Mais c'est clair que la manière dont on se comporte déjà en tant que professionnel dès le début de sa carrière, ça joue énormément sur ce qu'on risque d'être après. Maintenant, je pense que c'est une question aussi de confiance. Et il y a aussi l'environnement personnel qui joue beaucoup. Parfois, l'environnement change. On rencontre quelqu'un. Je dis souvent l'exemple. Quand on arrive à rencontrer quelqu'un, à vivre avec quelqu'un qui vous renvoie une image positive de vous et que cette personne avec qui vous vivez, vous l'admirez parce que vous l'aimez, un exemple, hein, tout bête, je pense que ça aide aussi à se pousser des ailes. Il y a des personnes qui, souvent en bilan, me disent « Oh là là, tiens, à la fin du bilan, bah, en plus, non seulement j'ai mon projet, mais en plus, j'ai enfin rencontré quelqu'un. » Je dis « C'est parce que vous faites enfin confiance et du coup, vous ouvrez aussi aux autres. » C'est-à-dire que ça joue aussi ça. Et je pense que le fait d'être... d'avoir quelqu'un qui vous épaule, qui vous encourage, qui vous projette, ça aide aussi. Donc parfois, il peut y avoir, c'est un exemple, hein, il y a d'autres exemples qu'on pourrait avoir, hein, mais parfois, le fait d'avoir des déclics comme ça dans sa vie personnelle, ça peut jouer aussi sur les projections professionnelles après. Ça peut faire qu'on finit par plus se positionner. Il y a aussi ceux qui deviennent père ou mère, ça aussi. J'ai des personnes que j'ai croisées qui, oh là là, m'ont dit, oh là, le jour où j'étais père, ça y est... Je me suis dit, tu peux plus ne plus te faire confiance, il faut que tu avances. Et voilà. Alors, je pense que ce n'est pas forcément bien d'attendre d'être père pour se projeter plus, parce que ce n'est pas parce qu'on est père qu'on est plus responsable pour autant. Hein. Je pense qu'il faut le faire pour soi et pas pour le fait qu'on soit père. Mais voilà, il y a des choses, il y a des étapes par lesquelles on passe, en maturité aussi, où parfois la personnalité, elle s'acquiert aussi avec un peu plus de temps, mais il y a quand même une ossature. Je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut, dès le départ, se dire, allez, tout de suite positionne-toi, commence à t'engager, parce que plus tu vas attendre, plus ça va être dur.